Chapitre 5. Le lendemain, vendredi 2 novembre, je fus réveillé en sursaut par des aboiements furieux qui me donnèrent un instant l'affreuse impression de tomber de nouveau d'un arbre dans une meute. Ce devait être Parthenope qui partait en chasse queue au vent, selon la poétique expression du premier secrétaire, accompagné d'un Macpherson qui travaillait sans doute à maintenir sa queue à pompons dans l'axe de la queue de son cheval, selon les conseils de la baronne émigrée. Les aboiements décrurent et mes battements de cœur se calmèrent. Le ciel matinal bleu lavé que j'entournoyais de mon lit était là pour me rappeler qu'il y avait aussi un ciel en Angleterre et que, de toute façon, je devais le revoir prochainement. Durant la journée de la veille, j'avais sans cesse été agressé par des émotions ou des étonnements violents qui m'avaient enfin retiré le plus clair de ma capacité de jugement. Et j'avais été d'autant plus bouleversé que je pouvais craindre pour ma raison. Il était temps de me reprendre, de faire le point au calme, de raisonner sur Kalinaos comme sur un rébus qui ne m'eût pas concerné personnellement. Après avoir examiné le problème sous tous ses angles, cherché avec obstination un fil conducteur dans ce labyrinthe, je fus frappé par une chose curieuse. J'étais en face de deux systèmes inconciliables, tant du point de vue anatomique que du point de vue historique, mais si la divergence anatomique était totale, opposant une évolution humaine à queue et une évolution sans queue, la divergence historique n'était que partielle, puisqu'il y avait coïncidence jusqu'au début de la bataille de Waterloo. Le rappel des crimes hideux de Bonaparte par Stephens, les propos de Lord Melrose, de sa fille ou du capitaine Macpherson, étaient à ce sujet démonstratifs. L'ampleur de la coïncidence historique entre les deux systèmes, avant que Waterloo ne les fît différer, et la nature même de la différence subséquente eussent dû être pour moi un trait de lumière, mais j'avais abordé le problème de façon intellectuelle au lieu de me servir de mon bon sens, et je demeurais dans le noir, inquiet et vexé, alors que la solution tenait en une courte phrase. Ce matin-là, ce fut le docteur Babington qui monta mon petit déjeuner. Tout à fait rasséréné, il me demanda si j'avais trouvé profit à la promenade qu'il m'avait conseillée, si mon amnésie était en régression, si je parvenais à distinguer des queues dans mes souvenirs d'Angleterre, celles de mon père, de mon oncle, de mes professeurs, de mes camarades d'école ou de faculté. Afin de ne pas le désobliger, j'en distinguais vaguement quelques-unes et l'informais de mon accident de diligence. Il ne fallut pas longtemps à Babington pour me démonter mon mensonge et me faire honte de ma mauvaise foi. Comment pouvais-je espérer guérir si je ne faisais pas confiance à mon médecin traitant? Pendant une bonne heure, Babington m'a confessé avec minutie, se donnant beaucoup de mal pour ressusciter mes souvenirs, à commencer par les tout premiers, imaginant les multiples circonstances où un jeune homme de bonne famille était susceptible d'avoir perdu sa queue. Telle est la force de la suggestion que je crus à plusieurs reprises mettre le doigt sur la plaie, mais une analyse plus approfondie introduisait un doute sans issue. En tout cas, je fis de mon côté les plus grands efforts pour soutenir la thèse d'un accident honorable et j'eus le sentiment de convaincre à peu près. Le sujet, une fois épuisé, je révélai que si j'avais des trous de mémoire en fait de queue, j'avais en revanche des souvenirs superflus en matière historique qui refusaient de cadrer avec le Times et l'opinion publique depuis l'issue de Waterloo. L'étrangeté de cette déclaration fit froncer les sourcils de Babington, qui réfléchit un instant avant de me dire « Votre cas est encore plus complexe que je ne croyais. Je conçois que votre infirmité, votre malheureux séjour sur la couronne, votre insolation et votre fièvre cérébrale se soient conjugués pour effacer toute queue de votre mémoire et d'abord la vôtre. Le processus est d'ailleurs classique, les troubles mentaux engendrés par la perte de la queue ne se comptent plus. En 1812, par exemple, le sapeur Lépic, dont la queue avait été gelée dans la Bérésina, a sombré dans une folie douce, dont les symptômes ont été observés et notés aux Invalides par l'illustre praticien Corvisart. Le pic n'arrêtait pas de dessiner des queues partout. Ce qui me chiffonne pourtant dans votre affaire, c'est la liaison entre une amnésie caudale d'origine sans doute traumatique et une autre amnésie très mystérieuse qui porte sur les événements de l'histoire récente, cette même amnésie étant elle-même compensée par une intense fabulation. Non content d'avoir oublié l'histoire depuis la débâcle anglaise de Waterloo, vous la refaites à votre fantaisie. Je regrette de ne pas être moi-même tout à fait spécialiste de ce genre de troubles et je vous conseille d'aller voir à Londres Sir Thomas College dès que vous serez rentré au pays. Sir Thomas soigne toutes les queues distinguées de la capitale et il sait faire le rapport entre le moral et le physique. Il y avait là de quoi troubler un garçon de 18 ans. Je renouvelai mes excuses au docteur pour lui avoir tâté la queue et lui déclarer. Mon geste n'avait rien d'impudique, mais dans mon état, doutant que les hommes usent des queues, je voulus tout simplement vérifier si je divaguais ou non. J'avais vu s'agiter comme dans un rêve la queue de Lady Parthenope. J'avais regardé à la lorgnette les queues du capitaine Macpherson et de quelques marins, mais je ne les avais point touchées. C'est la vôtre qui m'a sur le champ persuadé. Vous me croyez, n'est-ce pas? Je tiens tant à conserver votre estime. Babington sourit avec condescendance et me dit, avant de prendre congé, « Réfléchissez que toute queue, au contraire de nos autres membres, est en liaison directe avec la colonne vertébrale et les centres nerveux. On comprend dès lors qu'il s'agit d'un point sensible qu'il faut traiter avec ménagement. Je vous avouerai d'ailleurs que l'étude scientifique des rapports entre les affections caudales et les affections mentales n'en est qu'à ses débuts. Hippocrate et Galien ont pressenti l'importance de la question, restée quasiment en friche depuis lors. C'est aujourd'hui le domaine de pionniers. Il arrive même que certaines personnes anatomiquement normales, mais affaiblies par l'âge, battent la campagne à propos de queues. Puisque vous déjeunez avec nous ce matin, à ce que m'a raconté McLaurin, vous pourrez en juger par Lady Cecilia, la mère de Sir Randolph, qui est vraiment très, très, très fatiguée. Mais elle est encore en état de paraître et même de forcer la voix. Une conversation de ce genre avec Babington était paradoxalement décourageante pour la curiosité. À quoi bon se casser la tête contre les murs pour s'évader d'un système qui avait pour lui, en sus d'une parfaite organisation, la garantie de la faculté? D'une famille de médecins, étudiant en médecine moi-même, je ne pouvais qu'être impressionné par la savante assurance d'un Babington, et à partir de cet instant, je perdis le ressort que me poussait à briser ma cage. Toute nouvelle activité en ce sens me semblait vaine, sans autre résultat que de me froisser davantage contre les barreaux d'une illusion invincible. Quand Clio m'apporta le reste de mes vêtements et de mon linge, je me gardai soigneusement de toute allusion épineuse et j'eus le reposant plaisir de goûter un entretien en apparence normale où il s'agissait surtout d'escarpins trop étroits et de bottes un peu trop larges. À force de rêvasser, l'heure vint du déjeuner annoncée par une cloche. Pour me présenter à Lord Melrose, j'avais particulièrement soigné ma tenue et c'est très intimidé que je trouvais toute la compagnie dans un salon où elle s'apprêtait à passer à table. C'était la première fois que je déjeunais avec un lord, et celui-là n'était pas ordinaire. En plus de Sir Randolph, il y avait dans ce salon le docteur Babington, le père Bentivoglio, le premier secrétaire McLaurin, une vieille fille sèche et pincée, avec ses dents de cheval qu'on attribue si généreusement aux vieilles filles anglaises, et Lady Cecilia, qui était en effet hors d'âge. Babington, qui m'avait pris en charge dès mon entrée, me conduisit d'abord au fauteuil de Lady Cecilia, qui répondit à mes hommages de la voix tonitruante des sourds.
« C'est vous le naufragé? Vous auriez pu tomber dans une maison plus gaie, avec de la jeunesse !»
Le docteur m'entraîna sans plus attendre vers Sir Randolph, qui était debout un verre à la main. C'était un homme d'une soixantaine d'années, grand, svelte et voûté, dont la longue physionomie reflétait de prime abord une tristesse et une inquiétude sans limite, bien surprenante chez un propriétaire de paradis. Il coupa bientôt mes politesses et mes remerciements. L'humanité commandait de vous recueillir et de vous soigner. Votre éducation commandait d'ajouter foi à vos dires et de vous traiter en hôte. Vous n'avez pas à me remercier. Je suis en tout cas heureux de constater que vous n'avez pas mauvaise mine et que les remèdes de Babington semblent vous avoir réussi. Vous devez avoir hâte de retrouver votre famille et je vous en donnerai les moyens dès que vous le jugerez bon. C'était froid, mais tout à fait correct. Je demandai à Babington quand il estimait que je pourrais prendre la mer, et il dit après une hésitation, « Physiquement, après-demain, je pense. » Lord Melrose eut la politesse de ne pas insister sur le moral, me fit un petit salut et alla donner le bras à sa mère pour la guider jusqu'à la salle à manger. Ce faisant, il mit en évidence une queue lugubre. En effet, il avait bizarrement revêtu un Spencer, mise plutôt réservée aux femmes en ce temps-là. Comme nous lui emboîtions le pas, et que je me trouvais modestement à l'arrière-garde de la vieille demoiselle, Babington en profita pour me présenter. Miss Tipps, native de Belfast, était la gouvernante de Lady Penelope. Il me fallut faire malgré tout un effort héroïque pour l'imaginer avec une queue. Je fus placé entre Babington et le père Bontivoglio devant un tableau qui représentait Lord Melrose montant à cheval la queue gaillardement redressée par le mouvement ascendant. De chaque côté de ce tableau étaient de belles natures mortes de l'école flamande où les queues de quadrupèdes et de volatiles ne se comptaient plus. Durant le repas, servi avec un luxe irréprochable, je parlais de préférence à Bontivoglio. Sans doute ne pouvais-je me défendre, peut-être par préjugé anglican, d'une certaine prévention à l'encontre de ce jésuite simiesque, mais d'un autre côté, ne fût-ce que par ses prodigieux talents exégétiques, il avait tout pour intriguer et ma curiosité mal éteinte renaissait dans le cours des conversations que je suivais et auxquelles je prenais part. J'ai manœuvré un moment afin d'essayer de comprendre pourquoi son ordre avait détaché Bontivoglio sur cet îlot perdu. Mon jésuite écoutait patiemment, mais esquivait de même. Le soupçon m'effleura que j'avais affaire à un faux jésuite, et cette méfiance dut transparaître, car le père me dit en fin de compte avec une dignité pleine de douceur.
Le docteur Babington et McLaurin sont ici depuis longtemps. Je ne suis arrivé qu'au mois de décembre 1826. En 1814, l'année que mon ordre fut rétabli après 41 ans d'interruption, je suis rentré en noviciat à Palerme, où j'avais occupé jusqu'à cette date une situation assez en vue dans la société. Mais ma femme et mes enfants étaient morts de la peste. Dieu m'appelait à survivre à son service. J'ai donc derrière moi 2 années de noviciat, 2 années de juvénat, 3 années de philosophie, 4 années de théologie et un dernier noviciat d'un an qui a procédé mes vœux simples de coadjuteur spirituel. J'ai été nommé à Kalinaos sur le désir du cardinal Sacchetti, un esprit universel féru d'astronomie comme de géologie. Certes, la communauté catholique pratiquante de l'endroit se réduit, pour l'instant, à une seule personne, mais je ne désespère pas de ramener à la foi romaine quelques protestants ou grecs schismatiques. Ce rocher est un riche terrain pour l'apostolat. Cela dit, Bontivoglio sortit de son habit un papier qu'il me montra. C'était un célébré signé par l'archevêque de Bari et l'autorisant à célébrer la messe dans les îles Ioniennes. La pièce avait l'air on ne peut plus authentique. Nous en étions au dessert. J'allais faire observer à Bontivoglio qu'il était quand même étrange de sacrifier un jésuite à la conquête spirituelle d'un rocher, si luxueux fut-il, quand éclata soudain une scène renversante qui devait me laisser l'impression la plus pénible. Jusqu'à cet instant, Lady Cecilia ne s'était manifestée que par quelques coups de trompette à contre-temps chaque fois qu'elle essayait de se mêler à un débat auquel elle ne comprenait goutte. Mais depuis une dizaine de minutes, elle avait gardé un silence inquiet, se trémoussant sur sa chaise dans sa robe de dentelle noire et mâchonnant ses bajoux comme si elle ruminait. Et voilà que tout d'un coup, prise d'une vive agitation,
Elle se met à gémir de son organe strident.
« Ma queue ! Où est ma queue ? Je ne la sens plus, j'ai encore perdu ma queue !»
Les autres étaient visiblement habitués, mais je m'en suis cramponné à la table. Et tandis que le docteur me tapotait l'avant-bras en me disant « Je vous l'avais prévenu, hein ?» Lord Melrose s'efforçait de calmer Lady Cecilia par des paroles filiales.
« Allô, mère ! Allô ! Votre queue n'est pas bien loin ! Vous allez la retrouver ! Allons, vous allez la retrouver au moment où vous n'y penserez pas !»
La voix de Sir Randolph était fatiguée et mécanique. Il avait dû répéter maintes fois de pareils réconforts. Lorsque le calme fut rétabli, je songeais que l'incartade de Lady Cecilia était d'autant plus démonstrative en faveur d'un monde peuplé de queues que la très vieille dame n'avait manifestement plus toute sa raison. Loin de jouer un rôle, Lady Cecilia venait de parler comme une personne qui aurait passé toute sa vie assise sur sa queue et entourée de queues. Après déjeuner, la mère de Sir Randolph se retira au bras de Miss Tipps et nous prîmes le porto dans la salle de billard. L'atmosphère était pesante. Plutôt que de bavarder de sujets indifférents comme pendant le déjeuner, Lord Melrose, Babington et McLaurin se mirent à jouer au billard avec concentration. Pour être plus à l'aise, Babington avait enlevé son habit et McLaurin sa redingote. Le tableau de ces trois messieurs poussant leur queue de billard, tandis que leur propre queue leur battait les cuisses, aurait eu de quoi obscurcir une raison plus ferme que ne l'était devenue la mienne. Bentivoglio, à qui sa règle interdisait sans doute ce divertissement profane, sirotait son porto blanc devant une baie ouverte sur le péristyle où le soleil était de retour. À voix basse, je m'exprimais de la sorte. « C'est au prêtre que je parle, mon père, à l'homme qui a voué son existence à la vérité morale, comme les savants prétendent vouer la leur à la vérité scientifique. J'ai besoin d'un conseil. Abordant sur cette île, je croyais venir d'un monde où les hommes n'ont point de queue, et à voir ce qui se fait ici, j'en arrive à douter de tous mes souvenirs, et parfois de mon bon sens. Je suis terriblement dérouté et malheureux. » La main sur l'Évangile, qui condamne tout mensonge nuisible ou inutile, à quel monde me conseillez-vous d'adhérer ? Le père Bentivoglio garda le silence un moment, à la recherche d'une expression heureuse, et me répondit.
« Dans tous les cas, mon enfant, où la foi n'est pas en jeu, la sagesse nous recommande de respecter le monde des apparences et l'harmonie sociale qui lui est attachée. C'est ce que soutenait déjà Descartes dans sa morale provisoire. » Et il aurait dû en rester là, car il a mis par la suite la métaphysique en péril en travaillant à la consolider. Alors, je me permets à mon tour de vous poser une question. Pensez-vous que notre salut, la seule chose qui importe, dépende d'affaires de queue ? Tranquillisez-vous et conformez-vous aux usages qui ont d'ordinaire chez les peuples civilisés une bonne raison d'être. »
Devant cette décevante pirouette, je répliquai que je devais écrire chez moi d'urgence pour que la lettre eût quelque chance d'arriver avant ma personne et qu'il était ardu de s'adresser à un père quand on avait des doutes sur sa vénérable anatomie. Bentivoglio soupira.
« À quoi bon écrire puisque votre départ est si proche ? Vous verrez bien un corps fou comment les hommes sont faits. »
Il était inutile d'en espérer davantage. On me traitait en demeuré ou en indiscret. Je sortis de la salle de billard pour aller m'asseoir au soleil dans le péristyle, au bord de la pièce d'eau où évoluaient les cyprins. Une autre insolation remettrait peut-être les choses en ordre. Ce vendredi s'écoula sans incident, et le samedi de même. Je m'étais réfugié dans un état voisin du somnambulisme, me refusant à fureter davantage ou à susciter des entretiens démoralisants. Je me bouchai les yeux et les oreilles dans l'attente impatiente de mon départ prévu pour la soirée du dimanche. Tantôt, je rêvais dans ma chambre, orientant instinctivement mes pensées vers les souvenirs d'enfance et d'adolescence. Tantôt, je déambulais sur les terrasses, jetant un regard vide sur les lointains rivages de la Carnanie. Occupé par le maréchal Ney fusillé en 1815 ou par les Turcs que j'avais cru naguère rencontrer à Navarin. Tantôt, je me promenais dans les salons ou dans les jardins, avec une préférence pour les jardins parce que les queues y étaient plus rares. Tantôt, je figurais au repas, où les sorties même d'une Lady Cecilia ne me faisaient plus sursauter. On s'habitue à tout, à la couronne comme à Kalinaos. Il me souvient aussi d'être descendu un après-midi jusqu'à la jetée où se balançait la comète, qui devait bientôt m'emporter. Sur la coque, après le nom du bateau, une comète avait été peinte avec sa traîne. Dans ce pays, même les étoiles avaient des queues. À la villa, en l'absence de Lady Parthenope et de son escorte, la vie s'écoulait dans le plus grand calme, ponctué par le billard ou par le whist, par la tapisserie ou par la broderie. Les doigts de Miss Tipps s'animaient le soir durant le whist comme ceux d'une Pénélope qui n'aurait attendu personne tandis que les cartes volaient. Que, mis à part, on se serait imaginé perdre son temps chez les châtelains d'Angleterre. Le seul qui s'agita un peu, plus encore par tempérament que par nécessité, c'était Maclaurin, qui donnait parfois des instructions au vieux majordome gallois. Le docteur, qui avait renoncé à me guérir de mes fantasmes, se tournait les pouces et Bentiviglio ne sortait guère de la bibliothèque où il travaillait à une thèse sur les rapports entre la papauté et les Normands de Sicile. Quant à Sir Randolph, muré dans son spleen, il ne parlait guère que pour l'indispensable. Je notais tous ces détails avec indifférence. Cependant, je ne pouvais manquer d'être frappé par le nombre relativement restreint de domestiques pour un train de maison aussi considérable, ainsi que par le fait que la plupart désertaient la villa après leur service. Mais le recrutement avait fait l'objet de soins très attentifs. Je n'ai jamais vu de domestiques plus efficaces, plus discrets, plus aimables, qu'ils fussent britanniques, grecs ou italiens. Cette symphonie servile était si parfaite qu'elle ne semblait pas naturelle. Le dimanche matin, Bentiviglio m'invita à suivre sa messe basse, qu'il s'apprêtait à célébrer dans une petite chapelle sise à la limite des jardins à l'italienne et du grand parc.
« J'ai une dispense, me dit-il, qui m'autorise à consacrer les saintes espèces tout seul et sans public, ce que je fais chaque fois que Lady Parthenope est en chasse. Une assistance est tout de même préférable. Bien que vous soyez anglican, votre présence me ferait plaisir. »
J'acceptai pour tuer le temps et nous quittâmes la villa pour la chapelle alors qu'un orage menaçait. Chemin faisant, je m'étonnais que Lady Parthenope, unique paroissienne du lieu, manquât la messe dominicale pour le plaisir de la chasse, et Bentiviglio me confia.
« C'est une enfant indépendante et capricieuse, beaucoup trop gâtée, je crois. Son père est en adoration devant elle et lui passe tout. J'ai du mal à remonter la pente, d'autant plus que le docteur Babington, son parrain, est aussi fiable que Sir Randolph. » Babington a été catholique autrefois, avant de sombrer dans une incroyance déplorable.
La chapelle était charmante, d'une simplicité cistercienne. Alors que j'aidais Bentivoglio à revêtir ses habits sacerdotaux dans la sacristie, je remarquai par hasard que sa queue était bien courte et lui en fis l'observation.
« C'est de famille, » dit-il distraitement. « Il est un proverbe à Palerme, « Costa coda bueno testa », autrement dit, « courte queue, bonne tête », ce qui n'a pas empêché mon grand-père maternel d'être un distingué poète avec une queue qui lui caressait les mollets.
Je demandai à Bentivoglio qui s'était chargé avant lui de l'éducation religieuse de la jeune Parthenope, et il me dit en vérifiant sa tenue,
« C'est un pauvre prêtre irlandais, le père Donegan, que Lord Melrose avait levé sur ses latifundias. » Ce Donegan n'avait aucune prestance, aucune autorité, et il s'était mis à boire. La petite l'adorait, le suivait partout et le martyrisait. Il y a 3 ans, un soir que Donegan était descendu à la cave chercher du rhum, Parthenope lui a coincé la queue dans un piège à souris. Le moment était venu pour lui de revoir l'Irlande.
Nous rentrâmes dans la chapelle, heureusement vierge de toute iconographie caudale, et la messe commença. Je m'étais de nouveau évadé en pensée vers Shrewsbury quand l'orage éclata avec une grande violence, me ramenant à Kalinaos du même coup. Vers le milieu de la cérémonie, entre deux roulements de tonnerre, la porte de la chapelle s'ouvrit en grinçant, et je me retournai sur Lady Parthenope, qui, sans s'occuper de moi, alla s'agenouiller à ma hauteur, mais de l'autre côté de l'étroite allée centrale. Sa tenue de chasse masculine était trempée, et au bout d'un court instant, elle frissonna et retira la redingote ruisselante qui recouvrait une blouse sans prétention. Parthenope était de taille moyenne, avec la poitrine forte et la fesse bien ronde, de jolies épaules, la taille fine et le pied petit. Il y avait dans tous ses mouvements une grâce musclée et animale qui devait sans doute quelque chose à la vie au grand air et à la chasse. Des cheveux châtains encadraient un visage triangulaire et les yeux gris-verts rappelaient ceux d'un chat. La queue était de longueur moyenne, bien prise dans son fourreau de daim, mais le nœud de velours noir qui l'agrémentait aux deux tiers de sa longueur était défait. De toute la personne de Parthenope se dégageait une sorte de vie électrique. Très vite, le malaise que j'avais éprouvé à son entrée se dissipa pour faire place à une fascination, dont la vraie nature ne m'était pas encore clairement perceptible. Cette queue agissait cependant sur moi comme un aimant. Parthenope frissonna de nouveau et éternua. Je franchis l'allée pour m'installer à côté d'elle et je retirai ma redingote dont j'osai en tremblant recouvrir ses épaules. Elle eut un sourire de politesse qui découvrit des dents très blanches et pointues et je m'enhardis à lui murmurer « Je devine ce que vous avez pu penser lorsque vous avez découvert un marin tout nu sur un olivier. » Mais on a dû vous dire depuis que je n'étais marin que par accident, que j'appartiens à l'une des meilleures familles du Shropshire, que j'ai perdu ma queue tout petit par le plus malencontreux des hasards. Si vous saviez à quel point je suis si ennuyé d'avoir perdu cette queue, surtout du moment que je vous connais et suis ébloui par votre charme. » Ce disant, je m'étais penché vers Parthenope, resté agenouillé alors que j'étais debout, et je sentis monter vers moi des effluves puissantes de sueur et de cuir mouillé qui n'avaient rien de désagréable. Je m'agenouillai pour les respirer de plus près. Après un petit silence, la jeune fille chuchota fixant le dos du prêtre.
« Je ne suis pas mécontente d'être rentrée de la chasse plus tôt que prévu à cause du mauvais temps. Vous n'avez pas besoin de queue pour être aimable. Qu'est-ce qu'une queue, après tout ? C'est plutôt embarrassant, il faut toujours la surveiller. Quand je chasse, au moins, je puis agiter ma queue comme il me plaît. »
Ces délicats propos m'inondèrent de joie. Je m'inquiétais pourtant. On vous a bien dit qui j'étais, n'est-ce pas ?
Si, enfin, papa et parrain m'ont raconté ce que vous aviez raconté vous-même. Malgré votre bonne mine, ils ont jugé plus prudent que je ne vous rencontrasse point. D'autant plus que vous étiez souffrant et que vous aviez du mal à sortir de votre délire.
Je suis tout à fait rétabli à présent. Quel dommage que je parte ce soir. Nos chuchotements avaient attiré l'attention de Bentivoglio, qui jeta derrière lui un regard très contrarié.
Ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous avons fait connaissance et ce qui est fait est fait. Si vous voulez remettre votre départ, c'est facile. Papa est toujours de mon avis. Vous serait-il agréable d'enfumer un blaireau ? Je ne vous offre pas une partie de pêche, car j'ai très facilement le mal de mer. »
Je commençais à aimer la chasse, n'importe quelle chasse. Tout en conversant à voix basse, je n'avais pas quitté du coin de l'œil, les Italiens disent coda dell'occhio, la queue de l'œil, la queue frémissante de Parthenope, qui me semblait sans comparaison avec toutes les autres queues possibles et inimaginables. Le bout pointu, notamment, se tordait de temps en temps, et à chaque fois, j'avais un petit coup au cœur. Mais lors de l'élévation, la queue plongea soudain entre les cuisses comme un reprochement discret à ma profane curiosité. Depuis que Bentivoglio avait surpris notre manège, il avait accéléré sa messe de prodigieuse façon. Les messes basses sont d'ailleurs faites pour permettre ces accommodements. Le temps me pressait de marquer un point avant que le charme ne fût rompu par un importun, et je dis à l'oreille de Parthenope « M'accorderez-vous une faveur ? Le nœud de votre queue s'est défait. Pourrais-je le refaire ? » Parthénope, avec une délicieuse pudeur, soupira.
« Dépêchez-vous et ne vous faites pas prendre. L'abbaye a un œil derrière la tête et il ne plaisante pas. »
Puis elle mit pieusement sa tête entre ses mains et tendit sa queue à l'horizontale. Je ressens encore à 71 ans les mois de cet instant privilégié. Je m'attardai à cette opération, froissant le velours entre mes doigts, mais n'osant toucher la queue elle-même. Enfin, le nœud une fois rétabli, j'enserrai doucement la queue de ma main juste au-dessus du nœud et manquai d'affaillir à un bien étrange plaisir. C'était chaud, c'était nerveux, c'était vivant. Parthénope fit semblant de ne s'apercevoir de rien, mais après 2 ou 3 minutes d'hypocrisie, comme je renforçais ma pression, elle agita si fortement sa queue pour la dégager que je dus bientôt lâcher prise. Bentivoglio, d'ailleurs, se retournait pour donner la bénédiction finale. La messe dite, le prêtre me fit un impérieux signe de l'index, m'invitant à le suivre à la sacristie, où je l'aidai à se dévêtir. Nous n'échangeâmes, en cette circonstance, aucune parole, et lorsque nous ressortîmes de la chapelle, Parthénope nous attendait à l'abri du porche, sa redingote mouillée sous le bras, la mienne sur le dos, devant les jardins où l'averse orageuse commençait de faiblir. À ses pieds était un filet bourré de gros matous sanglants dont quelques-uns étaient encore parcourus de soubresauts nerveux.
« Je les ai tirés en rentrant, » me dit Parthénope. « Je tanne moi-même les peaux pour papa, qui a des douleurs dans le dos. Le chat est souverain dans ces cas-là. »
Vu les sentiments où j'étais déjà, cette scène barbare et répugnante me parut marquée au coin de la plus pure piété filiale. Bentivoglio, qui soutenait péniblement la vue du filet de matou à moitié crevé, s'adressa à Parthénope avec impatience.
« Je vous félicite, mademoiselle, de ne pas avoir manqué la messe, mais vous auriez dû prendre le temps de vous changer avant d'y paraître. Une jeune fille ne vient pas à l'église en culotte, tête nue et un massacre de chat sous le bras. Faites une révérence à monsieur Darwin et courez passer une robe. Vous êtes en train de vous enrhumer. »
Je récupérai ma redingote et Parthénope s'enfuit avec ses trophées dégoûtants de sang.
« Vous voyez, me fit remarquer Bentivoglio, que j'ai affaire à un sujet bien difficile. Une petite sauvageonne d'autant plus dure à dresser que personne ne soutient mes efforts. J'ai heureusement des satisfactions du côté des études. Parthénope ne travaille qu'à ses moments perdus, mais l'assimile avec une étonnante rapidité, la mémoire étant à la hauteur de l'intelligence. »
La pluie ayant cessé, je raccompagnai l'abbé jusqu'à la villa et montai dans ma chambre, dans l'attente du déjeuner qui devait me donner l'occasion de revoir Parthénope. Je ne pensais plus qu'à elle et à sa queue. Cette fille m'avait tout retourné en un moment. Telle était mon exaltation qu'il me semblait avoir abandonné un monde gris et sans joie de fantôme privé de queue par une ancestrale malédiction et savoir pénétrer dans un paradis bien réel où les femmes possédaient au grand complet tous leurs organes de séduction et de jouissance. La femme, créature trop longtemps inachevée, prenait enfin son relief et son piquant, traînant tous les cœurs derrière sa queue. Chapitre 6. Quand la cloche du déjeuner sonna, je me précipitai au salon jouxtant la salle à manger où était réunie toute la compagnie. Dès que je parus, encore surpris des audaces qui s'étaient imposées à moi durant la messe, Parthénope dit à Lord Melrose
« Monsieur Darwin, que j'ai rencontré ce matin à la messe, aimerait profiter des chasses de Kalinaos avant de reprendre la mer. Pourrait-il prolonger son séjour ?»
Un grand silence tomba soudain. Sir Randolph avait l'air excessivement ennuyé, partagé entre le désir de me voir au diable et la crainte de ne pas agir en gentleman. Me fixant avec une insistance où l'on pouvait discerner une prière muette, il finit par se tirer d'affaire avec une phrase lourde de sous-entendu.
« Notre hôte, ma chérie, est extrêmement pressé de nous quitter pour retrouver et consoler des parents dans l'angoisse. Cet après-midi, il doit faire ses bagages et la comète part à la tombée de la nuit. »
J'aurais eu mauvaise grâce à ne pas saisir. Je lançai un regard désolé vers Parthénope qui baissa les yeux. Durant le déjeuner, contrairement aux usages, Parthenope parla plus que tout le monde. Lord Melrose et Babington buvaient ces paroles avec un intérêt, un attendrissement inexplicable, tandis que McLaurin éprouvait avec la politesse d'un homme qui a trouvé une bonne situation. Le sujet préféré de Parthenope était la chasse, où elle ne fit grâce de rien. Il était étrange de la voir discourir avec excitation des tueries en robe bleu pâle. Autant Parthenope était négligée en costume de chasse quasiment masculin, autant elle se montrait coquette et soignée en société. Comme je m'étonnais qu'elle n'aimât point les animaux, elle éclata de rire.
« Mais je les adore, comme le loup aime l'agneau !»
Cependant, à la fin du repas, craignant sans doute de passer pour béotienne devant un étranger, elle mit la conversation sur ses fouilles. Près du village abandonné, les Grecs de l'Antiquité avaient eu un petit établissement et le site avait déjà donné quelques produits de choix, dont une nymphe qui avait été artistement déposée non loin de là, devant une grotte pittoresque. Depuis que j'avais tenu la queue de Parthenope dans ma main, le désir d'un univers bourré de queues me tenaillait, et je fus bien aise de discerner dans cette trouvaille sensationnelle la preuve irréfutable du mythe qui me ravissait. Pour être surpris par une pareille conversation, il faut n'avoir jamais empaumé une queue de fille pendant une messe jésuite. Je m'aperçus que Parthenope avait des connaissances et préoccupations artistiques très au-dessus de son sexe et de l'éducation ordinaire des jeunes filles. Je me rappelle cette réflexion exprimée surtout à mon adresse.
« Mon père me fait vivre dans un véritable musée, dont la qualité est égale à la variété. Cela forme le goût, mais cela déroute aussi. » Avoir toutes les solutions adoptées par les artistes parmi une infinité possible, on finit par se demander quelles sont les règles du beau et du laid, et même s'il en existe de bien assurées. Regardez au mur ces natures mortes. Elles appartiennent sans doute au domaine de l'art dans la mesure où les animaux y sont différents de ce qu'ils paraissent en réalité. Mais parmi toutes les différences inimaginables par lesquelles se traduit le génie original du peintre, comment établir une hiérarchie de valeurs une fois dépassée l'analyse de la perfection technique?
J'en arrivais à me dire que la queue donne non seulement aux femmes un surcroît captivant de sensibilité, mais encore une intelligence exceptionnelle. Le moment vint du billard auquel la jeune lady jouait d'une adresse ahurissante. Passant alors après moi, elle me dit dans un souffle
« Notre propre partie n'est pas encore perdue, laissez-moi donc le temps de manœuvrer papa. »
Après un dernier coup d'œil sur ses charmes, je montai plein d'espoir goûter une courte sieste. Vers 3 heures de l'après-midi, je passai sur la terrasse et considérai avec inquiétude les marins qui s'affairaient sur la comète. À l'aide de la longue vue, je vérifiai qu'il s'agissait bien, fort malheureusement, de préparatifs de départ. On faisait entrer à bord de l'eau et des provisions. Je détournai la longue vue du navire pour scruter les environs de droite et de gauche. À gauche se succédaient plusieurs intentations sableuses encadrées de rochers gris. À droite, je distinguais devant une plage des écuries et un chenil où s'abattaient les gros chiens gris de Parthenope, dont McLaurin m'avait dit que c'était des bêtes redoutables. Il avait d'ailleurs ajouté qu'il s'était fait mordre un jour qu'il se promenait par hasard près du quartier des domestiques et que les chiens avaient été lâchés pour le périodique bain de mer favorable à leurs poils. McLaurin avait boité 15 jours. À cette évocation, sa face glabre et osseuse était encore toute crispée. Vu la relative promiscuité de ce chenil, dont les aboiements montaient jusqu'à la villa par vent du nord, j'obtins, en réglant bien ma longue vue, des gros plans effrayants de molos. Le quartier des domestiques ne devait pas être loin, et je le découvris effectivement en arrière de la plage et des écuries, groupe de maisonnettes discrètement peintes de couleur terre parmi d'épais fourrés où dominaient les lentistes. J'allais abandonner mon instrument lorsque j'accrochai deux silhouettes humaines au pied d'un eucalyptus à quelque distance du village servile dans une zone qui semblait à l'écart de tout sentier. J'ajustai la longue vue et, à mon grand ébahissement, je découvris McLaurin et Clio. McLaurin était mollement allongé, les épaules adossées au tronc et Clio, à califourchon sur sa personne, se livrait à une activité dont la couronne m'avait déjà offert quelques exemples moins gracieux. Le beau soleil d'automne était revenu après l'ondée, et ayant asséché la terre, les deux tourtereaux étaient entièrement nus. Il n'aurait pas été digne d'un gentleman de poursuivre plus longtemps cet examen, et j'abandonnais la longue-vue en souriant. Après tout, que faire d'autre un dimanche dans une île où les distractions étaient limitées? L'idée pourtant me tracassait que cette scène n'était pas normale. Il y manquait quelque chose. Plus par curiosité que par vice, je remis mon œil à l'appareil que je braquai sur le derrière plantureux de Clio. Horreur! La fille n'avait pas de queue. Je soufflai sur l'objectif, j'essuyai la buée avec mon mouchoir et vérifiai de nouveau. Aucun doute n'était possible. Il n'y avait pas plus de queue que de beurre en broche sous cet eucalyptus. Envahi d'une sueur glacée, je regagnai ma chambre où je sentis l'affolement me gagner. Je venais de surprendre le secret de l'école. Tout aurait dû être clair à mes yeux, et mes pensées prenaient malgré moi le tour le plus absurde. Après la queue de Clio, la queue de Parthenope n'allait-elle pas disparaître par un coup de baguette mystérieux? La hantise idiote de cette perte irréparable m'embrumait tout à fait l'esprit. N'y tenant plus, je me précipitai à la recherche du docteur Babington, que je trouvai dans sa chambre en train de faire une réussite.
« Que vous arrive-t-il, jeune homme? Vous avez l'air égaré. »
Il y a de quoi. Figurez-vous que je voyais des queues partout, et à présent, je commence à ne plus en voir. C'est le reflux, en quelque sorte. Mon Dieu, que vais-je devenir?
Expliquez-vous donc.
Je racontai dans le détail à Babington ce dont je venais d'être témoin, refusant toutefois, malgré son insistance, de dévoiler l'identité des protagonistes. Tout pâle, le docteur réfléchissait. Comme je le suppliais anxieusement de m'éclairer, il me dit sur un ton léger et apaisant
« Vous faites tout simplement ce que les psychiatres de Paris, qui sont aujourd'hui les plus en avance, appellent une hallucination à éclipse. Philippe Pinel a observé de telles bizarreries à la Salpêtrière. Le malade éprouve une grande difficulté à distinguer l'imaginaire du réel. Tantôt vous croyez voir des queues, et elles y sont bien, tantôt vous ne les voyez plus, et elles y sont encore. Il est vraiment temps de vous en aller. L'heure de Kalinao ne vous vaut rien. En attendant l'heure du départ, il vous faut un repos complet. Gardez donc la chambre, je vous prie, rideau tiré, et efforcez-vous de sommeiller. » Peu avant la tombée de la nuit, Clio vous montra un encas et vous aidera à boucler vos bagages. La navigation vous fera du bien, et comptez les yeux de Corfou, vous remettra les yeux en face des trous.
J'obéis scrupuleusement au docteur. Mais lorsque Clio apparut avec son plateau, j'avais les idées plus en désordre que jamais. Il était quand même tentant de faire avec cette fille une dernière expérience. Je la regardai avec sévérité et lui dis
« Vous me feriez plaisir, Clio, en me révélant un petit secret. Pourquoi donc perdez-vous votre queue quand vous faites l'amour sur des Écossais ?»«
Ne niez pas. Je vous ai vu sous le grand eucalyptus avec la lorgnette. Alors, qu'en pensez-vous ?»
Clio se mit à trembler et laissa choir lamentablement son plateau. De toute évidence, elle mourait de peur. Je crus qu'elle craignait de voir son inconduite dénoncée et je la rassurai à moitié.
« Pour ménager Monsieur McLaurin, qui est un homme des plus distingués, je ne dirai rien à Sir Rodolphe, à moins que vous ne manquiez de franchise avec moi. »
Clio gémit.
« J'ai perdu ma queue au berceau. »
Le châle l'a mangé?
Non, les rats en hiver. Nous étions très pauvres, vous savez.
Cela sonnait horriblement faux. Plaidant moi-même le faux pour apprendre le vrai, je m'écriai.
Ce ne sont ni le chat ni les rats. Tu es né sans queue, n'est-ce pas? Comme tout le monde sur cette île. Si j'ai vu des queues, c'est parce que j'avais la tête dérangée, et pourtant j'ai eu l'impression d'en toucher quelques-unes. Mais c'était encore une hallucination, répondez donc à la fin. Je vais me fâcher.
Voyant où j'en étais, Clio, en domestique choisi, né à Ithaque d'un père malin, trouva très vite la fable qui me convenait, la seule d'ailleurs qu'elle eut désormais à sa disposition.
Vous êtes, monsieur, à la veille de tout comprendre, autant que je vous mette au courant. Lord Melrose a beaucoup de qualités et un petit défaut. Il se prend pour un grand singe. Vous l'avez vu avec son Spencer de femme qui met sa queue en valeur. Il ne rate pas une occasion pour montrer sa queue. S'il était pauvre, on dirait qu'il est fou. Comme il est très riche, on dit qu'il est un excentrique. Ainsi, ne pouvant produire au grand jour sa queue en Angleterre, s'est-il organisé sur Kalinaos une existence qui lui permet de se livrer impunément à son idée fixe? Il s'est affublé d'une queue de caoutchouc, et tout le monde a dû suivre, par amitié ou par intérêt. Les domestiques font ici fortune. Encore 2 ans, et j'ai ma dot. Encore 4 ans, et je suis vierge. Cette île est une mine d'or pour qui flatte comme il faut la manie du maître.
Je m'étais levé à l'entrée de Clio. Je me rassis sous le coup de cette révélation. La queue de ma chère Parthénope semblait bien perdue à jamais. L'avantage de retrouver un monde cohérent n'était rien à côté d'une pareille désillusion. Poussant de profonds soupirs, je demandai pourquoi diable Lord Melrose avait fait survivre Bonaparte, et elle me répondit finement.
« Mais monsieur, en inventant avec preuve à l'appui une guerre qui n'en finit plus, Sir Randolph se donne une bonne raison de ne pas aller traîner sa queue de fantaisie à Londres ou sur le continent. En un mot, il a besoin d'une guerre européenne générale pour rester dans ses pantoufles. C'est encore un aspect de son dérangement, et non des moindres. Maclaurin s'est fait des dizaines de milliers de livres sterling avec cette guerre-là. »
Comme s'il n'y avait plus rien à dire sur l'affaire, Clio s'est mise à nettoyer les débris de mon encas qui jonchait le parquet, puis elle est montée sur une chaise pour prendre une petite malle en haut d'une armoire où elle a commencé de ranger mes vêtements, le tout avec des effets de poitrine ou de croupe destinés à retenir mon attention, à m'étourdir et à m'abrutir. Cette fille était une perle. Refermant la malle, elle me déclara toutefois avec une inquiétude non feinte
« Que monsieur me garde le secret sur tout ce que je viens de lui confier, et surtout qu'il n'aille pas déranger Lord Melrose dans ses imaginations maladives. Il ne faut pas tirer la queue du chat qui dort, tout pourrait arriver. Entre la folie douce et la folie furieuse, la marge est étroite, comme chez les ivrognes qui passent en un clin d'œil de l'attendrissement à la brutalité. Quant aux autres, si près de votre départ, à quoi bon les ennuyer avec ce qu'ils ne savent que trop ?»
Clio partit. La profonde invraisemblance de ces racontars aurait dû m'apparaître après un rien de réflexion, mais mon esprit à la dérive était impressionné par la logique toute superficielle qu'on venait de faire miroiter. Nous sommes d'ailleurs portés par une fausse sagesse à accorder plus de crédit aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. Puisque la queue de Parthénope, comme celle du docteur, n'avait été qu'un postiche à mes sens échauffés et abusés, la fille avait dû dire vrai. Et j'eus d'autant moins le temps de réfléchir que je me sentis vite submergé par la houle d'une violente indignation. Des jours et des jours pour le plaisir de faire fonctionner une ridicule mascarade, on avait failli me rendre fou, et avec des raffinements de psychologie qui semblaient d'une cruauté gratuite. Foulant aux pieds toute éthique médicale, Babington s'était moqué de moi de façon particulièrement odieuse. Plus je me remémorais mes entretiens avec lui, plus la rage m'étouffait, cette rage des doux, des pacifiques et des confiants que l'on a martyrisés sans vergogne. Après ce que j'avais subi sur la couronne, Babington était la goutte de fiel qui faisait déborder le calice de toutes les amertumes. Sur ces entrefaits, on frappa à la porte. Je crus que c'était Clio qui avait oublié quelque chose. C'était Babington, souriant jusqu'aux oreilles, qui venait me prendre pour m'accompagner au bateau. Le sourire de cet hypocrite doucereux était insupportable. Je me précipitai à sa gorge, le saisis par sa cravate, et le secouant comme un prunier, je lui lançai à la figure « Médecin marron,
abject tortionnaire, abominable pantin, diffamateur professionnel, dangereux cinglé, je t'en foutrais quelque part des substituts de sexe agressif, des polarisations, des obsessions, des mauvaises mœurs, des infirmités, des mutilations, des amnésies caudales traumatiques ou historiques, des hallucinations à éclipse. Brigand sans cœur, je m'en vais te faire regarder ta queue en face, une fois que je te l'aurai coupée. »
En joignant le geste à la parole, je ramassai sur la table à écrire, où la lettre à ma famille attendait toujours mon inspiration, une paire de larges ciseaux. Dès que je l'eus lâché pour me saisir des ciseaux, mon Irlandais suffoqué détala comme un goré sur ses courtes jambes le long du couloir, prit un virage et entra en trombe dans un vaste bureau pour s'aller cacher derrière le dos de Lord Melrose, qui faisait tranquillement de la correspondance. Le sang-froid de Sir Randolph me stoppa au milieu de la pièce avec ses ciseaux.
« Ce forcené veut me couper la queue !»
gémit Babington. Cette voix guignarde me fit revenir toute ma fureur, et je criai « Je vais couper toute celle de la maison, et on n'en parlera plus !» Sir Randolph me dit alors
« Vous les couperez toutes sauf une, j'espère, celle de Parthenop. »
J'en demeurai tout saisi, et Babington, après une explication éperdue à l'oreille de Lord Melrose, me laissa tête à tête avec lui.